الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc chers frères en Allah Azza wa Jal, on fait la troisième condition parmi les conditions de la ilaha illallah qu'on a vu, ou qu'on va voir. Et Cheikh Obed al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala, il continue donc son explication de ces conditions de la ilallah et des preuves des conditions de la ilaha illallah en disant: Al-Shartu al-Thalith al-Ikhlas al-Munafi lil-Shirk. Wa dalil al-Ikhlas qawluhu ta'ala: Ala lillahi ad-dinu al-Khalis. Wa qawluhu subhanahu: Wa ma umiru illa li'abudu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنساء في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد ينظر الله إليه أن يعطيه سؤله. Cette troisième condition, parmi les conditions qu'on va voir, on en a déjà cité deux dans les cours précédents, les conditions de l'attestation de la ilaha illallah et leurs preuves. Et le shir dit la troisième condition, c'est la sincérité, qui est opposée à l'association. Et la preuve de la sincérité est la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est: c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Sourate Zumar, verset 3. Et sa parole, dont la traduction du sens est: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyinah, verset 5. Et comme preuve de la sunnah, c'est-à-dire comme preuve de cette condition, le hadith rapporté de manière authentique dans l'authentique d'Al-Bukhari d'après Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sera le plus heureux en raison de mon intercession sera celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur ou de son fort intérieur. Le hadith est rapporté par le Bukhari et d'autres, d'après la narration d'Amr ibn Abi Amr, d'après Saïd al-Maqbouri, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Et dans l'authentique, d'après Itban ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a certes interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah, désirant par cela la face d'Allah. Et ça, c'est un hadith qui est muttafaq alayh, qui est apporté dans le Bukhari et Muslim, d'après la narration de Mahmoud ibn Rabi' al-Ansari, d'après Itban ibn Malik, qu'Allah l'agrée. Et An-Nasa'i dans Al-Yawm wal-Layla a rapporté, d'après le hadith de deux hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une personne ne dit pas la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, sincèrement de son cœur, confirmant ce que dit sa langue, sans qu'Allah ne lui fende le ciel afin qu'il regarde celui qui l'a dit cette parole parmi les gens de la terre. Et un serviteur qu'Allah regarde est en droit qu'il lui donne ce qu'il demande. Maintenant, le Cheikh Obeid Hafidallah, il va revenir sur cette partie, point par point, il va expliquer point par point. Il a dit, qawluhu, sa parole, la sincérité, al-ikhlas, qui est la troisième condition parmi celles qu'on va voir, inshallah. Il dit, wa huwa fil lugha at-tasfiyah, وفي الشرع تخليص العبادة وتصفيتها من شائبة الشرك والرياء. Ça c'est important de retenir aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours dit que dans les mots, il y a deux sens. Il y a le sens linguistique dans la langue arabe, et puis il y a le sens dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens religieux du terme? Et bien, il dit la sincérité, il explique c'est quoi la sincérité, l'ikhlas. C'est dans le sens linguistique, l'appurement, la purification. Et dans le sens religieux, et bien, c'est épurer et purifier l'adoration de toute souillure d'association et d'ostentation. Sa parole, qawluhu, ألا لله الدين الخالص. C'est-à-dire qu'il a cité le verset de Sourate Zumar, verset 3, dont la traduction du sens est: c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est dans ce grand savant de l'islam et exégète du Coran, il a dit justement dans son exégèse du Coran: أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادعو الخلق إلى ذلك واعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد. ولهذا قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه أو أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. Donc ce grand savant de l'islam Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce verset? Il dit, c'est-à-dire adore donc Allah seul sans lui donner d'associé et appelle les gens à cela et fais-leur savoir que l'adoration ne peut être que pour lui seul et qu'il n'a pas d'associé, ni pareil, ni égal. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, ce dont la traduction du sens est: c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Sourate Zumar, verset 3. Cheikh Ildi, Ibn Kathir, rahimahullah, c'est-à-dire, n'est accepté comme action que celle dont la personne qui l'a faite l'avoue de manière exclusive à Allah seul, sans lui donner d'associé. Fin de citation d'Ibn Kathir, volume 4, page 45. Il cite un autre savant de l'islam, qui est un savant contemporain celui-ci, le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di rahimahullah, qui est mort aussi. Il dit dans l'explication de ce verset, l'exégèse de ce verset: هذا تقرير للأمر بالإخلاص وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله تفضل على عباده من جميع الوجوه فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديه والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء. انتهى محل الشاهد من كلام ابن سعد رحمه الله. Et Ibn Sa'di, ce grand savant de l'islam, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: ceci est une affirmation de l'ordre de sincérité et une mise en évidence qu'Allah le Très-Haut, comme il détient toute la perfection, il détient la grâce sur ses serviteurs sous tous les aspects, de même lui appartient la religion pure, pure de toute souillure, et c'est la religion qu'il a agréée pour lui-même et agréée pour l'élite de ses créatures, et qu'il leur a ordonnée. Car elle contient le fait de vouer l'adoration à Allah seul dans le fait de l'aimer et de le craindre et d'espérer en lui et de revenir reportant vers lui en servitude et le fait de revenir vers lui afin que ses serviteurs obtiennent leurs demandes. Et c'est cela qui réforme les cœurs et qui les purifie et les épure sans association à lui dans quelque adoration que ce soit. Et Allah en est innocent et il n'en a rien. Fin de citation du témoin argumentatif de la parole de l'imam Sa'di rahimahullah de son exégèse, page 847-848. On a déjà dit que c'est une exégèse qui a été publiée en un gros volume ou bien en une série de volumes. On continue l'explication. ويزيد ما ذكره هذان الإمامان في معنى الآية توضيحا وتأكيدا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء تمامها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et ajoute en termes de clarification et d'insistance quant à ce qu'ont dit ces deux imams au sujet du sens du verset, il parle d'Ibn Kathir et d'Ibn Sa'di, ce qu'a rapporté l'imam muslim dans son authentique, D'après la narration d'Abu Huraira qu'Allah l'agrée, qu'il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah le Très-Haut a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. Et c'est un hadith rapporté par Muslim, numéro 2985, et d'autres que lui d'ailleurs, d'après la narration d'Al-Ala ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Sa parole, la parole d'Allah dans la traduction du sens est, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. La suite qui complète le verset est, c'est dans la traduction du sens est, d'accomplir la salah, d'acquitter la zakah, et voilà la religion de droiture. Surat al-Bayyina, verset 5. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلف لديه حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله. Cheikh Abd Rahman Nasr al-Sa'di, il explique ce verset de Surat al-Bayyinah, verset 5, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, il ne leur a été commandé dans toutes les législations, cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire qu'il n'ait pour intention dans toutes leurs adorations, apparentes et cachées, que la face d'Allah, et de chercher à se rapprocher de lui. Hunafa, c'est-à-dire se détournant et s'écartant de toutes les religions qui s'opposent à la religion de l'unicité. Et la prière et la zakat ont été citées de manière spécifique, alors qu'elles sont comprises dans sa parole, dans la traduction du sens est, cependant que d'adorer Allah lui vaut un culte exclusif. C'est important de comprendre ça. Cependant que d'adorer Allah lui vaut un culte exclusif. Mais la prière et la zakat sont comprises dans l'adoration. Pourquoi ils ont été cités de manière spécifique? La réponse, en raison de leur préséance à toutes deux, et de leur noblesse à toutes deux, et en raison du fait qu'elles sont les deux actes d'adoration, dont celui qui s'en acquitte se sera acquitté de toutes les législations de la religion. Et voilà, dhalika, c'est-à-dire l'unicité et la sincérité dans la religion, din al-qayyima, la religion de droiture, c'est-à-dire la religion droite qui fait arriver au jardin des délices. Et ce qui est autre que cette religion, ce sont alors les voies qui font arriver à l'enfer. Fin de citation d'Ibn Sa'di rahimahullah, page 1099 dans son tafsir. Qultu, ay al-qa'il Sheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala, wa fima aslafna min al-adillati 'ala wujub al-ikhlas wa ma ya'ti fi al-bab ta'kid lima qalahu Sheikh rahimahullah. Je dis, c'est-à-dire Sheikh Ubayd al-Jabiri qu'Allah le préserve, il y a dans ce que nous avons dit précédemment comme preuve de l'obligation de sincérité et dans ce qui va suivre à ce sujet une confirmation de ce qu'a dit le Sheikh qu'Allah lui fasse miséricorde. Qulhu ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نحن نتحدث عن الحديث نستطيع الكونتكس يا إخوة بارك الله فيكم c'est qu'on parle des conditions de la ilaha illallah. Regardez l'importance du sujet du cours. Et on parle des conditions et on a donné, dans les conditions on a donné des preuves. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Al-Sheikh Rahimahullah, il a donné des preuves à ces conditions de la ilaha illallah. On arrive à la troisième condition, qui est quoi? La sincérité. Et parmi les preuves, c'est ce hadith rapporté par Abu Huraira, que le Sheikh va expliquer et dont il va rapporter l'histoire. Et il dit, sa parole est de la sunna de hadith rapporté de manière authentique dans l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sera le plus heureux en raison de mon intercession sera celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur ou de son fort intérieur. Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari numéro 99 et numéro 6570 et d'autres d'après la narration d'Amr ibn Amr, ibn Abi Amr, d'après Saïd al-Maqbouri, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée. قلت الحديث في صحيح البخاري وغيره واللفظ عند البخاري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرص أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Oubel Jabiri, hafidahullah, le hadith se trouve dans l'authentique d'Al-Bukhari et dans d'autres livres, et sa formulation chez Al-Bukhari est la suivante. D'après Abu Huraira, ce noble compagnon, radiallahu anhu arda, qui l'a dit, il fut dit, « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quel est le plus heureux des gens en raison de ton intercession le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « J'ai certes pensé, ô Abu Huraira, que personne ne me questionnerait au sujet de ce hadith avant toi en raison de ce que j'ai vu de toi comme désir ardent quant au fait d'apprendre le hadith. » Cheikh Al-Muhsin Al-Adba, dans son explication de ce hadith, il dit ça, c'est un éloge du prophète alayhi wa sallam pour Abu Huraira et par rapport à son désir ardent dans le hadith, le fait d'apprendre la science. Malgré le fait que son islam il est tardif, Abu Huraira, il a rapporté le plus de hadiths, plus de 5300 hadiths. Pourquoi, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen dans l'explication de ce hadith, كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم. Il accompagnait souvent le prophète صلى الله عليه وسلم, il restait souvent avec le prophète صلى الله عليه وسلم afin de prendre la science de lui. Celui qui sera le plus heureux en raison de mon intercession sera celui qui a dit La ilaha illallah sincèrement de son cœur ou de son fort intérieur. Et sache, Cheikh Al-Di, وعلم بأن الشفاعة المذكورة في هذا الحديث هي الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين تلك الشفاعة التي أنكرها طوائف من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة. قال الحافظ في الفتح على هذا الحديث لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بقوله وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقد تقدم السياق هو وبيان ألفاظه في أول كتاب الدعوات ومن طرقه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قلت أي شيخ عبيد حفظه الله تعالى وبهذا يتضح لك صحة احتجاج أهل السنة والجماعة على ثبوت هذه الشفاعة وفساد مذهب المخالف. Cheikh Oubel Jabiri Hafidhullah dit, et sache que l'intercession citée dans ce hadith est l'intercession pour ceux qui ont commis des grands péchés parmi les gens de l'unicité. Comme cette intercession qui a été rejetée par des groupes d'innovateurs comme les Khawarij et les Mu'tazila. Al-Hafid, c'est qui a dit dans le Fath, c'est Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, l'explication de l'authentique d'Al-Bukhari par le grand savant, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il a dit concernant ce hadith. Peut-être qu'Abu Huraira a questionné à ce sujet lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith « Je veux garder mon invocation comme intercession pour ma communauté dans l'au-delà. » Et son contexte ainsi que la mise en évidence de ces différentes formulations ont précédé au début du livre des invocations, Kitab al-Da'wa de Sahih al-Bukhari, et parmi ces versions, « Mon intercession est pour ceux qui ont commis des grands péchés parmi les gens de ma communauté. » J'ai dit « Écoutez, le hadith, il est clair du prophète alayhi wa sallam. » Une des versions de ce hadith, mon intercession est pour ceux qui ont commis des grands péchés parmi les gens de ma communauté. Or, vous savez, on l'a déjà vu dans un des cours, que le Khawarij et le Mu'tazila, ils transgressent la voie de la Sunna et des gens de la Sunna concernant celui qui commet un grand péché parmi les croyants et qui ne s'en repent pas avant de mourir. Ils disent quoi pour eux? Que celui qui commet un grand péché et qui ne s'en repent pas, bien quoi, c'est un kafir. Et qu'il est mukhalid finnar. Et le Mu'tazila, ils ont dit quoi? C'est une manzila ben al manzila taim. C'est-à-dire qu'il est ni croyant ni kafir, mais que dans l'au-delà, il est quoi? Il est aussi éternellement en enfer. Walakin Ahl Sunna al-Jama'a, ils ont dit que celui qui fait un grand péché et qui meurt sur ce grand péché, ce qu'on appelle Ahl Kaba'ir ibn al-Muahidin, eh bien, celui qui a commis des grands péchés parmi ceux qui sont sur l'unicité et qui sont morts là-dessus, sans se repentir, ils sont sous la volonté d'Allah. Allah, s'il veut, leur pardonne par miséricorde de sa part, et s'il veut, il les châtie par justice de sa part. Mais même s'ils sont châtiés, qu'est-ce qu'il se passe à la fin? C'est qu'ils sont de toute façon après au paradis et qu'ils ne sont pas voués à l'enfer éternel. Ça, c'est important de comprendre ça. Et ça, c'est une réfutation de Khawarij qui disent que pour eux, il dit celui qui commet un grand péché, il est sorti de l'islam. Le hadith du prophète Sassim, il le réfute de manière claire. Le prophète Sassim, il dit, mon intercession est pour ceux qui ont commis des grands péchés parmi les gens de ma communauté. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Oubel Jabiri, Hafidahullah Ta'ala, Et par cela t'apparaîtra clairement l'authenticité de l'argumentation des gens de la sunna du consensus concernant l'affirmation de cette intercession et la corruption de la voix du transgresseur. Maintenant, il va passer à l'autre preuve, l'autre hadith du prophète A.S.A.T.S.A.M. sur quelles conditions? La condition de sincérité dans l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Qalu وفي الصحيح عن عتبان بن مالك إلى آخر كلامه قلت الحديث عند الشيخين وله قصة ولفظ البخاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم لوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفاع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة أو خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو بن الدخش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. Donc il rapporte le hadith d'Ibn Ibn Malik, il a rapporté l'histoire de ce hadith. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prophète Sazim a dit cette parole? Sa parole dans l'authentique d'après Itban ibn Malik. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abel Jabiri Hafidahullah, le hadith est rapporté par les deux Cheikhs, Al-Bukhari et Muslim. Il y a une histoire et la formulation d'Al-Bukhari est la suivante. Que Itban ibn Malik, il est l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et fait partie de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, parmi les Ansar, et est venu chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « Mon messager d'Allah, ma vue affaiblie, et je guide mon peuple dans la prière. » Lorsqu'il pleut, le lit du fleuve qui se trouve entre moi et eux se remplit d'eau. Et je ne suis donc pas capable d'aller à leur mosquée afin de les guider dans la prière. Je voudrais que tu viennes au messager d'Allah chez moi et que tu pries dans ma maison afin que je prenne l'endroit pour la prière. Quelques favoris par rapport à ça, c'est que ça c'est, rentre dans l'adar pour Tark al-Jama'a, comme les ulama ils disent. Et aussi ici par rapport au fait qu'ils prennent l'endroit, un endroit spécifique pour la prière, ce qui est autorisé dans la maison et pas dans la mosquée. Hein, d'avoir un endroit spécifique. Tandis qu'à la maison, tu peux avoir un musalla, un endroit spécifique où tu peux prier. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, je le ferai, incha'Allah. Itban, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint donc le lendemain, lorsque le jour fut levé avec Abu Bakr, sur l'Uthaymin, il dit, regardez, beaucoup de hadiths, on entend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr et Omar, il sortait avec Abu Bakr et Omar, il rentrait avec Abu Bakr et Omar. Hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda l'autorisation d'entrer. Et donc je lui ai donné l'autorisation d'entrer. Il ne s'est pas assis jusqu'à ce qu'il entre dans la maison. Cheikh Al-Uthaymin il dit, pourquoi? Parce que le prophète Sassim, il est venu pour une chose. Donc il a commencé par la chose par laquelle il est venu. Pour laquelle il est venu. Il prend de ça Cheikh Al-Uthaymin. On prend sa défaut et notamment une erreur dans Talab al-Ilm. C'est par exemple que quand tu regardes dans un glossaire d'un livre, à la fin, un lexique, et que tu regardes, et que tu cherches une mas'ala précise, et que tu commences à regarder d'autres mas'ail, et que tu perds le fil, et que tu fais pas ce pour lequel tu es venu dans ce glossaire. Il a dit non, tu fais d'abord ce que tu fais, et après tu peux faire autre chose, parce que ça rentre ce qui est en plus. Voilà, qu'in toi, d'abord tu fais ce que tu as fait. Regardez le fait des ulama des hadith. Donc le prophète Sassim ne s'est pas assis jusqu'à ce qu'il entre dans la maison, puis il a dit, où aimerais-tu que je prie dans ta maison? Il dit, je fis un signe vers un coin de la maison. Le messager d'Allah Sassim se leva donc et fit le tekbir. Nous nous levâmes et nous nous mîmes en rang. Et il sallallahu alayhi wa sallam pria deux unités de prière et salua. Il dit, nous l'avons retenu afin qu'il sallallahu alayhi wa sallam mange un plat que nous lui avons préparé. Cheikh Al-Uthaymin dit que c'est une dalil d'ailleurs que l'autorisation de prier certains nawafil en jama'a. À condition que ce ne soit pas une habitude, que ça ne devienne pas une habitude. Hein? Et retourner à l'explication de Bukhari ou Muslim pour avoir plus de détails. Il y a beaucoup, beaucoup de fawaid à tirer de ce hadith. Il dit, et nous l'avons retenu afin qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, mange un plat que nous lui avons préparé. Il a donné le nom du plat et Cheikh Al-Asim dit, regardez la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et un certain nombre d'hommes parmi les gens du quartier se sont regroupés. Parce que le prophète, Cheikh Al-Asim, il a dit, ils veulent écouter, ils veulent avoir la guidance du prophète, alayhi salatu wassalam. L'un d'eux dit, ou un Malik ibn Ad-Dukhayshin ou ibn Ad-Dukhshun. Cheikh Al-Asim, il a rapporté avec le mime aussi, Ad-Dukhshun ou Ad-Dukhayshim. L'un d'entre eux dit, celui-là est un hypocrite qui n'aime pas Allah et son messager. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, ne dis pas cela. Ne le vois-tu pas qu'il a certes dit la ilaha illallah, cherchant par cela la face d'Allah? Il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, nous voyons son visage et son conseil aux hypocrites. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, et il cita le hadith, Allah a certes interdit à l'enfer, Allah a certes interdit l'enfer à celui qui a dit la ilaha illallah, désirant par cela la face d'Allah. Cheikh Al-Éthiopie et d'autres ulama disent que justement, c'est le prophète, il a innocenté Malik, radiallahu anhu arda, de cette accusation d'hypocrisie en disant cela. D'accord? Parce qu'il a témoigné de la véracité de son attestation. On continue l'explication. قولوا فإن الله قد حرم على النار. قلت التحريم نوعان تحريم دخول وهذا في حق من مات على التوحيد غير مرتكب للكبائر ولا مصر على الصغائر. وتحريم خلود وهذا في حق عصاة الموحدين كما دلت عليه أحاديث الشفاعة المتواترة في أهل الكبائر. Donc pour les frères qui veulent l'obl al-ilm, c'est intéressant d'avoir des taqsims comme ça et de les noter, de les retenir, des catégorisations comme ça. Sa parole, Allah a certes interdit l'enfer. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, il va expliquer chaque parole du hadith. Je dis, c'est-à-dire, Cheikh Abou al-Jabiri, l'interdiction est de deux types. L'interdiction d'entrer. Et cela pour celui qui est mort sur l'unicité, sans avoir commis de grands péchés, et sans être persistant sur les petits péchés. Celui-là ne rentre pas en enfer. L'interdiction d'y rester éternellement. Et cela est pour les désobéissants parmi les gens de l'unicité, comme cela a été indiqué par les ahadith mutawatir de l'intercession concernant ceux qui ont commis des grands péchés. Qu'Allah nous préserve des grands péchés, nous préserve de rentrer en enfer, ne fût-ce qu'un simple instant. Al-Mutawatir, c'est quoi? On a dit plusieurs fois dans les cours que c'est pris de Tawatur, qui est dans le jargon des savants du hadith, ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs qui rendent d'habitude impossible qu'ils soient de connivence et concordent sur un mensonge. Voir Amin Atir bil Minah, fi ilm al-mustalah, de Cheikh Abdul Kalim Mourad, rahimahullah, et de Cheikh Mouassil Abbad, hafidahullah, page 8. Sa parole, قوله من قال لا إله إلا الله. أي تلفظ بالشهادة ولا بد من العلم بأن هذا القول مقيد كما سبق في حديث أبي هريرة في الشرط الثاني وكما سيأتي. Sa parole, celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire à prononcer l'attestation, il est obligatoire de savoir que cette parole est restreinte. Il y a une restriction. Comme nous l'avons vu précédemment, et on va encore le voir, inshallah, dans les hadiths d'Abu Huraira, dans la deuxième condition, ça on l'a déjà vu, et comme nous allons le voir. Cheikh Amnus al-Abad, il dit dans l'explication de ce hadith, il dit justement que ici, il faut comprendre que c'est dire la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Parce que les deux, ils vont toujours ensemble. Les deux, ils vont toujours ensemble. D'accord? Et que l'une ne va pas sans l'autre. قوله يبتغي بذلك أي يطلب ويرجو والإشارة بذلك إلى النطق بالشهادة. Sa parole, désirant par cela, il cherche et espère. Et le pronom démonstratif cela est au sujet de la prononciation de l'attestation. C'est-à-dire que désirant par la prononciation de l'attestation que la ilaha illallah. Sa parole wajhallah في إثبات صفة الوجه لله والشاهد من الحديث اشتراط الإخلاص في النطق بالشهادة. Sa parole, la face d'Allah, il y a en cela l'affirmation de l'attribut de la face à Allah, comme il convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala, et le témoin argumentatif du hadith, qui est la condition de sincérité dans la prononciation de l'attestation. C'est-à-dire que la partie pour laquelle est utilisé ce hadith comme preuve de ce qu'on avance, que la sincérité c'est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah, elle serait réduite dans cette parole-là. Wajh Allah. Yabtaghi bidhalika, wajh Allah. كما يفيد أحكاما أخرى منها
تحريم أهل التوحيد الخالص على النار وعلم أن التحريم في هذا الحديث وفي معناه ليس على إطلاقه بل مقيد. Et il, le hadith indique aussi d'autres jugements parmi lesquels l'interdiction d'entrer en enfer pour les gens de l'unicité pure. Et sache que l'interdiction dans ce hadith et dans ce cas le même sens n'est pas absolue, mais au contraire est quoi, est restreinte. Puis il explique cela le shaykh. Il dit قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على هذا الحديث بعد نقله كلاما مطولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتد لذلك ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ولهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وقال وهب ابن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Cheikh Souleymane ibn Abdillah dit dans son explication de ce hadith. C'est qui Cheikh Souleymane ibn Abdillah? C'est celui qui a fait Taïsir al-Aziz al-Hamid, une des explications de Kitab al-Tawhid. Il dit dans ce hadith, après avoir rapporté une longue parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et en résumé, la ilaha illallah, écoutez cette parole, regardez le fadl pour celui qu'Allah a guidé à l'Islam et lui a permis de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah est la cause d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer et implique cela. Mais ce qui est impliqué n'a lieu que si les conditions sont réunies et que les barrières sont levées. Et car il se peut que l'implication n'ait pas lieu en raison de l'absence d'une condition parmi les conditions ou de la présence d'une barrière. Et c'est pour cela qu'il fut dit à Al-Hassan, des gens disent celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Il dit alors, celui qui dit la ilaha illallah et s'acquitte de son droit et de son obligation entrera au paradis. Et Wahab ibn Munabbih, il a dit à celui qui le questionna, la ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis? Il répondit, certes oui, mais il n'y a pas de clé sans qu'elle n'ait des dents. Et donc si tu viens avec une clé ayant des dents, on t'ouvrira, sinon on ne t'ouvrira pas. Et indique cela, le fait qu'Allah ait mis l'entrée au paradis comme résultat de la foi et des actions vertueuses. Et on a déjà dit plusieurs fois dans plusieurs cours que la croyance des gens de la sunna, c'est que les actions font partie de la foi. Hein? L'iman, qawlun, amalun, atiqad. Ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dit le cheikh ici, il dit, comme cela est rapporté dans le deux authentiques d'après Abu Ayyub, qu'un homme a dit, ô messager d'Allah, informe-moi d'une action qui me fera entrer au paradis. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu adores Allah, et tu ne lui associes rien, et tu accomplis la prière, et tu donnes la zakah, et tu préserves les liens de parenté. وفي المسند عند بشر بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله وأنا محمدا عبد الله ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن آتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن قلت يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام والأحاديث في هذا الباب كثيرة إذا المسند الإمام أحمد Il rapporte d'après Bishr ibn al-Khassasiyah qui a dit « Je suis venu chez le prophète alayhi salat wa salam afin de lui prêter allégeance. Et il m'a mis comme condition l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le serviteur d'Allah et son envoyé et que j'accomplisse la prière et que je m'acquitte de l'aumône légale prescrite, la zakat et que je m'acquitte de mon pèlerinage de l'islam et que je jeûne le mois de Ramadan et que je combatte sur le sentier d'Allah. Je dis donc, ô messager d'Allah, quant à ces deux, à deux de ces choses, par Allah, je n'en suis pas capable. Le combat dans le sentier d'Allah et l'aumône. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris alors sa main, puis l'a fit bouger et dit, donc pas de combat dans le sentier d'Allah et pas d'aumône, avec quoi entreras-tu au paradis? Je dis, ô messager d'Allah, je te prête allégeance sur tous ces points. Et il est rapporté par Ahmed al-Hakim ibn Nasr dans Ta'adim Qadr al-Salah et la chaîne de transmission est faible. Il y a donc dans ce hadith que le combat dans le sentier d'Allah et l'aumône sont des conditions pour l'entrée au paradis avec la mise en pratique de l'unicité et de la prière, du pèlerinage et du jeûne. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux. وَفِيهِ تَحْرِيمُ النَّارِ عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيدِ الْكَامِلِ وَفِيهِ أَنَ الْعَمَلَ لَا يَنْفَعُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى وفيه دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. Il y a donc dans ce hadith aussi l'interdiction d'entrer en enfer pour les gens de l'unicité complète, parfaite. Il y a dans ce hadith que l'action n'est bénéfique que si elle est sincère pour Allah le Très-Haut. Il y a dans ce hadith la preuve qu'il n'est pas suffisant pour la foi de prononcer sans croire et vice-versa. C'est-à-dire prononcer sans croire ou croire sans prononcer. Fin de citation de l'imam Suleyman ibn Abdillah dans Tessir al-Azl al-Hamid, édition de Lahore, dans la copie de Soumé'i, volume 1, page 199 à 200, et il manque une grande partie de cette parole dans cette édition-là. قَوْلُهُ قُلْتُ وَهَدَا لَكْذَكَرَهُ الشَّيْخِ يَتَحَتَّمُ الْمَسِيرُ إِلِيهِ جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abel Jabiri, hafidahullah, il y a dans sa chaîne de transmission, Mohamed ibn Abdillah ibn il y a dans ce hadith la preuve qu'il n'est pas suffisant. Je me trompe encore une fois. Et ce que le Cheikh a cité, il est obligatoire de le suivre par regroupement des preuves. قَوْلُهُ وَلِلنَّسَائِي فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ مِنْ حَدِيثِ رَجُلَيْنِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ قُلْتُ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَاصِمٍ بْنُ عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ الْحَافِظُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقْبُولٌ وَالْمَعْرُوفُ فِي مَنْ أَهَدَ حَلُّهُ فِي إِصْلَاحِهِ أَنَّهُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يُتَابَعْ فَالْحَدِيثُ عَلَى هَذَا ضَعِيفٌ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ مَا يُقَوِّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Le dernier hadith qui est cité par Cheikh Abdurrahman Hassan, rahimahullah, et qui est expliqué par Cheikh Obeid, hafidahullah ta'ala, il dit, sa parole est An-Nasa'i dans Al-Yawm wal-Layla, qui est un des livres de l'imam Nasa'i, a rapporté d'après le hadith de deux hommes. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Obeid Jabiri, hafidahullah, il y a dans sa chaîne de transmission de ce hadith, Mohamed ibn Abdillah ibn Maymoun, et Ya'qub ibn Asim ibn Urwa ibn Mas'ud. Al-Hafid ibn Hazar, ce grand savant, grand spécialiste du hadith, a dit au sujet de chacun d'entre eux, Maqboul. Mais ce qui est connu dans son jargon, au sujet de celui dont telle est la situation, c'est qu'il est layyin al-hadith, s'il n'est pas suivi. Et donc en se basant sur cela, le hadith est faible, et je ne lui ai pas trouvé ce qui peut le renforcer, et Allah est le plus savant. Et justement ce hadith a été jugé faible par Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans le hadith al-Da'ifa, numéro 6617, et dans Da'if al-Targhib wa al-Tarhib, numéro 932. Et avec cela, on aura fini le cours pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.